おかしいおかしい、おかしい。
Il est 19h40, qui c'est ça? Dialogue entre Congolais, Jean-Claude, sous votre mandat.
Bonsoir, la Fondation sud-africaine qui milite pour la bonne gouvernance, OSISA, et des professeurs congolais d'université ont clôturé ce mercredi à Kinshasa la conférence sur la lutte contre la corruption en RDC. Le thème exact de cette conférence, institutions financières internationales et les pratiques de la corruption en RDC. À côté de cette fondation OSISA, il faut citer le concours des universités telles que l'Université de Kinshasa, l'Université protestante du Congo, les facultés catholiques et le Centre d'études pour l'action sociale de CEPAS, sans oublier le Global Financial Integrity, c'est un centre de recherche basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Quel est l'état de la corruption en RDC et quelle stratégie ces professeurs proposent-ils pour éradiquer ce fléau? C'est le thème central, c'est même les questions principales qui vont alimenter ce débat. Et pour cela, nous recevons trois invités dans cette émission. Il s'agit du professeur Daniel Moukoko, il est économiste au PNUD et qui a participé à cette conférence. Un autre professeur qui était présent aussi à cette conférence, il s'agit du professeur Kabuya Talala. Lui, il a exposé sur les pratiques de la corruption dans la passation des marchés publics. Et le troisième invité représente la Fondation sud-africaine OSISA. Il s'agit de Hubert Chiswaka, directeur des programmes RDC de la Fondation OSISA. Nous vous rappelons que cette émission, nous la dédions à Jérôme Congo, car voici 4 ans que notre confrère qui a animé cette émission de dialogue entre Congolais nous a quittés.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Institutions financières internationales et les pratiques de la corruption en RDC, c'est le thème de la conférence internationale clôturée ce mercredi au centre CEPAS à Kinshasa. Quel est l'état de la corruption en RDC? Voyons d'abord à quoi ont abouti les orateurs à la conférence internationale tenue au centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Je vous l'ai dit, plusieurs professeurs des universités UNIKIM, UPC, Université protestante du Congo, Faculté catholique ont pris part à cette conférence, sans oublier la Fondation aussi ça. Voici quelques-unes des recommandations qui nous sont lues ici par le professeur Ferdinand qui est au micro de José Moussa Opondé.
Stratégie adressée au Parlement et au gouvernement. L'Organisation nationale juridique nationale avec les instruments internationaux ratifiés par la RDC. On fait allusion ici à la Convention des Nations Unies et au protocole de la SADC. L'accélération de la révision de la législation en matière de passation des marchés publics en cours d'élaboration. L'obligation de déclaration du patrimoine des dirigeants et mandataires devant un organe indépendant à déterminer dans les forums nationaux. L'élaboration d'une loi pour protéger les dénonciateurs de la corruption et des enquêtes de poursuites judiciaires. Au gouvernement, l'accès civil. La tenue d'un forum national de lutte contre la corruption, la promotion de l'éducation civique à tous les niveaux, la stigmatisation de la corruption comme antivaleur, le fait d'exercer une pression sur les institutions publiques pour leur implication dans la tenue de ce forum et dans la lutte contre la corruption.
Voilà, c'était pas le professeur Ferdinand, hein, mais c'est plutôt le père Ferdinand Mouy-Guiroy, il est directeur du CEPAS, c'était lui le rapporteur général de cette conférence, c'est lui qui venait de nous lire là, les recommandations de cette conférence. On va tout de suite commencer avec vous, professeur Kabuya Kalala, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, professeur, essayez de vous approcher un peu du micro. Est-ce que vous avez ajouté par rapport à ces recommandations que, en fait, vous-même, vous avez élaborées?
Bon, disons, j'ai beaucoup plus penché sur la pratique de la corruption dans la passation des marchés publics en République démocratique du Congo. Il faut dire que c'est une pratique qui exige une stratégie de lutte multidimensionnelle. Parce qu'en fait, la corruption a des aspects moraux, mais aussi des aspects purement pécuniaires. Mais pour la combattre de manière beaucoup plus efficace, il faut absolument tabler sur plusieurs plans. Il faut notamment qu'il y ait un certain réarmement moral, il faut qu'il y ait des mécanismes de prévention, de détection, des mécanismes, pourquoi pas aussi de répression.
Mais
puisque vous avez travaillé, hein, vous avez beaucoup plus d'informations en ce moment sur la passation des marchés publics. En fait, ça se passe comment concrètement en RDC?
La passation des marchés publics, en fait, c'est la pratique qui consiste à acquérir soit des biens, soit des services pour les comptes de l'État, soit à faire exécuter des travaux pour l'État. Normalement, c'est une pratique qui doit passer par des étapes bien réglementées. Et il se pourrait que, à l'occasion justement de la passation du marché, ces étapes-là soient escamotées, au profit sûrement de l'un ou l'autre des soumissionnaires. Ça peut se faire de mille et une façons. Ça peut se faire au niveau de l'appel d'offres, où on peut s'arranger pour escamoter certains soumissionnaires, où on peut éventuellement donner des marchés à ceux qui n'ont pas la qualification, où on peut éventuellement donner des marchés à ceux qui peuvent surfacturer, etc. Donc, c'est une panoplie de pratiques.
Et c'est en fait, là, vous parlez des choses qui se font à RDC en ce moment.
Ce sont des choses qui se font. Ce sont des choses qui se font. Le grand problème, c'est que il est difficile d'attraper les corrupteurs et les corrompus. Mais on peut imaginer, on peut entrevoir à travers certaines pratiques que la corruption se fait.
Professeur Daniel Moukoko, bonsoir. Professeur?
Bonsoir.
Ouais, essayez de vous éloigner légèrement de votre téléphone parce que ça souffle un peu. Donc, professeur, vous avez suivi votre collègue Kabuya Kalala qui a, lui, a exposé au cours de la conférence sur la corruption dans la passation des marchés publics. Il a essayé d'évoquer un peu les pratiques qui se font et il est dit que c'est difficile d'attraper le corrupteur. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment difficile?
Bon, je pense que on peut, dans un premier temps, se servir d'un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, posons-nous la question quand un projet de réhabilitation d'une route démarre. Pourquoi ce projet n'arrive pas à terme dans le délai convenu? Pourquoi, même s'il arrive à terme, les travaux ne sont pas faits dans les normes convenues, de telle manière que la route se dégrade encore très vite après la réhabilitation? Je pense que ce sont là des indications qui permettent d'avoir une idée sur les dégâts des pratiques de corruption dans la passation de marché. Il est évident que il serait difficile d'établir de manière certaine qu'il y a eu des pratiques de corruption lorsque les dispositions légales justement ne sont pas suivies. Si c'est un marché gré à gré, les arrangements qui se sont passés entre celui qui a la signature pour accorder le marché à l'entreprise et l'entreprise, c'est difficile d'établir à ce moment-là quels sont les arrangements informels qui peuvent avoir eu lieu. Mais si les dispositions légales, comme le disait bien le professeur Kabuya, sont suivies, c'est-à-dire toutes les procédures de l'appel d'offres jusqu'à l'ouverture des plis, jusqu'à la sélection du meilleur, de la meilleure entreprise, c'est-à-dire de l'entreprise qui offre de réaliser les travaux au meilleur prix, donc au prix le moins élevé pour celui qui paye, c'est-à-dire l'État, tout en respectant les spécifications techniques. Donc si ces dispositions sont suivies, à ce moment-là, il est plus facile de mettre la main ou d'avoir des preuves flagrantes qui peuvent permettre d'établir des pratiques de corruption.
Mais professeur Daniel Moukoko, puisque le thème, je le rappelle, c'est institutions financières internationales et pratiques de la corruption en RDC, on sait que, parlant des marchés publics, il y a des routes, par exemple, qui sont financées par des partenaires extérieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsqu'on prend une avenue comme l'avenue de l'université qui n'a pas été achevée et vous apprenez après que non, les études n'ont pas été bien effectuées? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Est-ce que c'est la partie congolaise où on retrouve ces pratiques ou il y a aussi des partenaires extérieurs qui sont impliqués dans ce genre de corruption, disons-le?
Dans le cas normal, un bailleur de fonds qui financerait un projet, quel qu'il soit dans un pays, il devrait suivre les systèmes national de passation de marché. Il existe bien dans notre pays un système de passation de marché public. C'est un système qui est régi par une loi datant de 1969. Ce système a bien besoin d'être actualisé. Mais justement à cause des problèmes inhérents à ce système, un certain nombre de bailleurs de fonds utilisent d'autres mécanismes pour organiser la passation de marché public. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut expliquer l'existence du Bureau central de coordination, le BCECO, qui fonctionne comme une unité parallèle, c'est-à-dire qui rend les services de mise en œuvre du projet, de la passation de marché jusqu'à la réception de l'ouvrage pour le compte à la fois de la partie nationale et pour le compte du bailleur de fonds. Donc si l'on utilise ce genre d'unité, il est évident que s'il y a des problèmes, s'il y a des pratiques de corruption, la responsabilité doit être partagée entre le bailleur de fonds et la partie nationale.
Voilà, Hubert Tshisaka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de l'OSISA, la fondation sud-africaine qui a facilité la tenue de cette conférence. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà au niveau un peu de, on peut dire, l'état des lieux de la corruption en République démocratique du Congo, à partir de ce que viennent de dire déjà les professeurs, ne fût-ce que sur la passation des marchés?
Alors, merci de pour m'avoir invité à cette émission. À ce niveau, notre fondation facilite cette discussion au niveau des acteurs nationaux et des acteurs internationaux. Parmi les acteurs nationaux, on a trouvé les chercheurs et les décideurs. En tant que OSISA, nous ne sommes pas experts dans les domaines, même si je suis de nationalité congolaise et que je peux donner un avis en tant que Congolais. Mais si la question est posée à la Fondation facilite cette discussion parce que sa mission, c'est le soutien à l'érection d'un état de droit, et l'érection d'un état de droit passe par un débat entre la population. Mais s'il peut revenir dans ma peau de Congolais pour donner un avis tout à fait citoyen, mais je pense que, comme les deux professeurs l'ont expliqué, il y a des signes qui portent à croire que il y a des corruptions dans plusieurs marchés. Le professeur Moukoko venait de le dire, que si vous constatez par exemple dans une affaire comme l'exemple que vous avez donné de la construction de la route de l'université, même si vous n'êtes pas expert, vous regardez la route, on commence les travaux, le temps que les travaux s'exécutent, et puis la qualité des travaux livrés, le temps qu'on livre les travaux, et tout ça, ça peut vous porter à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand un commun de mortel, un citoyen n'importe lequel, constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la première impression qu'il pourra, c'est dire s'il y a quelque chose qui ne va pas dans un marché, c'est qu'il y a corruption. La corruption, je te dis, dans le sens que c'est une somme d'argent donnée à quelqu'un qui a une décision de l'État, qui a le pouvoir public, pour obtenir plus d'avantages pour soi. Ça veut dire, dans le terme simple, ça peut être un entrepreneur qui donne de l'argent à un fonctionnaire de l'État, afin qu'on puisse fermer sur le contrôle et on lui passe un marché qui n'exécute pas suivant les normes. Donc, à ce niveau, de mon point de vue, je pense que nous n'avons pas besoin de nous voiler les yeux. Il y a plusieurs chantiers dans le pays sur lesquels on peut, sans se tromper, et dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. On peut présumer qu'il y a corruption, et pour cela, il faudrait que les gens bien avisés approfondissent leurs recherches pour amener des indices qui peuvent confirmer ou infirmer cette présomption de corruption.
Merci beaucoup, Hubert Tshistoka. Pour un autre orateur à la même conférence, Jean-Pierre Mbouebois, professeur aux facultés catholiques de Kinshasa, la corruption en République démocratique du Congo se manifeste notamment dans le cas de passation de marché ou de services, dans le cas des nominations. On écoute au téléphone de Denis Diboko.
Notre pays est parmi les pays où la corruption bat les records. Cette corruption se manifeste notamment dans le cas des passations de marché ou des services ou d'achats, dans le cas des nominations, dans le cas des paiements au titre des préfinancements des opérateurs économiques quand il y a des travaux ou avec des pouvoirs publics, dans le cas des protections de certaines personnes qui ont mal travaillé, qui demandent des couvertures auprès des autorités plus haut placées que.
Voilà, professeur Kabuya Kalala, nous restons encore dans votre thème que vous avez exposé, toujours sur la passation de marché, mais là, le professeur Jean-Pierre Mbouebois, lui, il avance aussi des cas de corruption dans les nominations et même protection des gens qui ont mal travaillé ou qui ont détourné. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, effectivement, la corruption, comme je le disais, elle peut prendre plusieurs aspects. Hein. Les collègues Mbouebois s'est appesanti beaucoup plus sur les aspects politiques. Et là également, on peut voir des gens qui utilisent la corruption pour accéder à certains postes.
Donc, beaucoup de ministres que nous avons dans notre pays, on peut dire que certains ont glissé un peu d'argent pour être nommés.
Pas nécessairement à ce niveau-là. Peut-être que le mot politique ici faut l'employer dans des sens plus larges. À l'accès, par exemple, à des postes dans des entreprises publiques.
Pour être mandataire.
Pour être mandataire de l'État, oui. Ça, c'est des cas qui peuvent se vérifier.
Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Je rappelle à ceux qui viennent de nous joindre, de se joindre à nous, la Fondation Sud-Africaine, aussi ça, et des professeurs congolais d'université ont clôturé ce mercredi la conférence internationale sur les institutions financières internationales et les pratiques de corruption RDC. Quelle stratégie ces professeurs proposent-ils pour éradiquer ce fléau? On se retrouve tout de suite après le rappel de notre contact.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelle stratégie les professeurs d'université qui ont pris part à la conférence internationale sur les institutions financières internationales et les pratiques de corruption à RDC proposent-ils pour éradiquer ce fléau de corruption? Jean-Pierre Mbouebois, encore lui, professeur en faculté catholique de Kinshasa, propose entre autres la valorisation du code de conduite de l'agent de l'État en RDC. On l'écoute.
C'est difficile de mettre fin à la corruption totalement, mais au moins il faut qu'il y ait une volonté politique de combattre la corruption, de dénoncer la corruption et de présenter la corruption comme quelque chose de mauvais. Nous avons le code de conduite de l'agent public de l'État qu'il faut essayer de valoriser parce que ce code-là a été promulgué dans l'espace justement de juguler la corruption. Il y a aussi les lois sur la corruption. Cette loi-là, il faut essayer de l'appliquer. Nous avons également des services qui font la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, nous avons les cours et tribunaux à qui on doit donner des moyens et des pouvoirs pour qu'ils puissent essayer de traquer les gens qui sont impliqués dans la corruption.
Le code de conduite de l'agent de l'État qu'il faut promouvoir, mais professeur Moukoko Daniel, vous avez, j'ai le document avec moi sur votre intervention. L'évaluation de la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption RDC, est-ce qu'il y a plus à faire à part le code de conduite de l'agent de l'État?
Bien, je pense que il y a plus à faire, effectivement. Comme le disait tout à l'heure le professeur Mbouebois, le pays dispose bel et bien d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption.
Quelle est cette stratégie, professeur?
Il y a un document qui a été adopté en Conseil des ministres en 2002. Ce document prévoyait un certain nombre d'actions à entreprendre.
Telles que?
Certaines de ces actions, c'était par exemple la promulgation d'une loi anticorruption. La loi a été promulguée, votée par le Parlement de l'époque, promulguée par le chef de l'État. La promulgation d'un code de bonne conduite de l'agent public de l'État, auquel faisait allusion le professeur Mbouebois. Ce document a bel et bien été voté par le Parlement, promulgué par le chef de l'État. Il avait existé à l'époque une commission de lutte contre la corruption qui avait été mise en place par un décret présidentiel du mois d'août 2002, mais laquelle commission avait cédé la place à la commission d'éthique et de lutte contre la corruption qui a existé pendant la période de la transition. Il est également prévu la mise en place d'un observatoire de lutte contre la corruption. Donc, il existe déjà là ces quelques éléments, sans oublier toutes les mesures envisagées à l'époque dans le domaine de la réforme de la gestion des finances publiques, y compris notamment la réforme du code de passation des marchés publics, dans le domaine de la réforme de la fonction publique, ainsi que de la réforme du système judiciaire. Donc, le dispositif commençait à prendre corps. Mais ce que l'on sent, c'est une certaine, ce que moi j'appelle une inertie, ce manque de volonté de bouger dans la direction de réellement combattre la corruption, malgré l'existence de ces moyens légaux, de ces moyens réglementaires, et malgré l'existence des structures comme la Cour des comptes, comme l'Inspection générale des finances, qui sont justement des structures ayant pour objectif d'assurer la bonne utilisation des ressources publiques et donc de combattre la corruption.
Eh bien, professeur, comment vous expliquez justement ce manque d'inertie pour combattre la corruption, malgré tous ces documents que vous venez de citer, qui existent pour certains?
Bon, je pense que le professeur Kabouya a parlé du caractère multidimensionnel de la corruption. Je pense qu'il faut considérer, si je peux utiliser l'analogie, la corruption c'est comme une pieuvre avec, n'est-ce pas, qui vous asphyxie, qui vous... Et d'ailleurs on le voit, notre pays a fait la démonstration que, en plus d'autres facteurs politiques, géopolitiques, ainsi de suite, mais depuis le début des années 90, on a bien fait la démonstration que la corruption limite la capacité de notre armée à défendre le territoire national, que la corruption limite la capacité de la police à défendre les citoyens, à protéger les biens et les personnes, que la corruption limite la capacité de nos régies financières à collecter les ressources publiques. Mais malgré cette démonstration faite, établie, on ne bouge pas. Ni le Parlement, ni l'exécutif, ni encore moins le système judiciaire qui dispose pourtant des moyens, j'ai parlé de la loi anticorruption, avec lesquels ce système donc peut entamer la lutte contre la corruption. Je pense qu'il faut donc rechercher les facteurs qui expliquent cette inertie sociale, ce manque de volonté de bouger, qui explique aussi cette acceptation, on peut dire, par l'opinion publique des pratiques de corruption. On ne voit pas la population congolaise se lever, protester contre la persistance des pratiques de corruption dont elle est pourtant cette population victime, parce que les biens publics ne sont pas rendus, ne sont pas accessibles à cause de la corruption, les services publics où ils sont excessivement chers, ou alors ils ne sont pas disponibles ou accessibles, ou encore quand ils sont accessibles, ils sont de mauvaise qualité.
Alors, professeur Kabouya Kalala, vous avez suivi votre collègue Daniel Mokoko qui déjà vous a fait allusion à votre argumentation en disant que la corruption est multidimensionnelle, elle a plusieurs facettes. Et maintenant, vous, comment vous pouvez expliquer justement le manque de volonté au niveau des autorités de combattre cette corruption avec tout ce qu'on vit comme conséquence, hein? Le professeur Daniel l'a dit, la limitation de la capacité de l'armée, capacité de la police et beaucoup d'autres facteurs au secteur de la vie nationale.
Je crois qu'il y a d'abord au fond un problème moral et culturel. Je pense qu'on a érigé la corruption en un mode de vie. Les gens pensent que lorsqu'on travaille quelque part, comme il y a un dicton qu'on entend souvent dans la population, la chèvre ne peut brouter que là où elle est attachée. Et les gens pensent que c'est normal. Si on vous donne une fonction, il serait anormal que vous en sortiez le même vide, que vous ne puissiez pas profiter justement de ce qu'on peut considérer ici comme une rente de situation.
Donc, professeur, par là, vous voulez dire que la culture congolaise, les mœurs congolaises encouragent
à admettre cela. Donc, les mœurs encouragent cela. En plus, les responsables pensent que la corruption est une solution facile à certains problèmes. On voit par exemple les fonctionnaires qui sont mal payés. On aurait pu améliorer leurs conditions. Mais on ferme les yeux en se disant, c'est peut-être une façon pour les uns et les autres de pouvoir arrondir les fins du mois. Ce sont ces valeurs-là qui sont entretenues, acceptées, qui font que les gens considèrent la corruption comme une chose normale. Et en plus aussi, l'absence de répression.
L'impunité.
L'impunité, voilà les mots. L'impunité est aussi érigée en valeur. Lorsque les gens savent qu'ils ne seront pas punis, la plus grave sanction, c'est simplement de perdre son poste, mais on garde tous les résultats de ce qu'on a détourné, de ce qu'on a reçu en corruption.
Parfois, certains sont promus, on le voit.
Tout à fait. Pour faire encore davantage.
Hubert Tshisoka, il y a Mirugi, c'est un auditeur, Mirugi Nestor, il nous écrit depuis Kisangani dans la province orientale, il pense que la corruption ne peut pas prendre fin en RDC parce que ceux qui sont censés sanctionner font aussi partie du système. Qu'est-ce que vous en pensez?
La question reflète la préoccupation qui est majeure, telle que viennent de le souligner les deux professeurs qui sont avec nous dans l'émission. Pourquoi M. Mirugi Nestor pense que la corruption ne peut prendre fin? On l'a dit, la corruption devient comme une situation que la population accepte.
Elle devient comme normale.
Elle doit prendre fin.
Parce que c'est pas grave.
Mais effectivement, la situation est tellement grave que la population, à la base, pense que ce sont les autres qui doivent agir. Pas le citoyen, pas M. Mirugi, pas M. N'importe qui est en train de suivre l'émission, qui est en RDC.
Mais qu'est-ce que Mirugi, Nestor, à partir de Kisangani, qu'est-ce que lui, par exemple, peut faire pour mettre fin à la corruption en RDC? Lui, qu'est-ce qu'il peut faire?
M. Mirugi, en tant que citoyen de ce pays, il doit d'abord se refuser, lui, de participer à la corruption à n'importe quel niveau que ce soit. Mirugi, nous venons prendre le nom, mais il faudrait considérer les citoyens de manière générale.
C'est ça. Il représente les Congolais.
Oui, je suis. Parce que, qu'est-ce que vous constatez dans, si on peut déduire de ce que tout le professeur vient de dire, la population participe d'une façon ou d'une autre. Quand on a un frère qui est à un poste de position dans une région financière, tous les neveux, tous les oncles vont chez lui pour être recommandé et travailler dans la même régie financière, même quand ils n'ont pas de compétences, et quand ils arrivent là-bas, c'est juste pour profiter de leur position évoluée dans la caisse de l'État. Et comment est-ce qu'ils volent? Ils se font corrompre. Ils sollicitent même des corruptions. Ils vont chez des opérateurs économiques. Voilà, vous savez que le chef s'est montré. Si vous me donnez un peu d'argent, je vais lui donner un peu à lui. S'il refuse d'ailleurs sa femme, c'est ma sœur. La sœur ne peut pas refuser parce que ma tante est malade à l'hôpital ou bien ma tante est malade au village. Si vous me donnez, je donnerai directement à la tante qui va le téléphoner et rien ne se fera. C'est une participation collective. Il faudrait qu'on arrive à dire non, 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 nous sommes en train de mourir collectivement et qu'on arrête. Il dit que seuls ceux qui sont censés réprimer ne répriment pas. Mais on voit dans plusieurs cas. Si vous réprimez une personne parce qu'elle a détourné les fonds de l'État avec toutes les preuves, et vous verrez les gens de son parti politique, les gens de sa tribu, les gens de son village, tous se lever, sachant bien que leur frère, leur collègue de parti politique est coupable, mais ils ferment les yeux là-dessus, ils soulèvent des arguments qui ne tiennent pas debout. Non, voilà, on l'a réprimé parce qu'il n'est pas de leur parti politique, ou on l'a réprimé parce que lui n'est pas de leur village, on l'a réprimé, on oublie toute la réalité.
Et là, finalement, il y a une contradiction, parce que d'un côté, avec le professeur Kabuya, on a parlé de cette impunité, manque de répression, mais là, vous dites, finalement, même quand on réprime, ça pose aussi problème dans la société.
Et justement, nous nous retrouvons dans un cercle vicieux que nous devons, à un certain moment, arrêter. Nous devons arrêter parce que même ceux qui répriment, ils se retrouvent sous pression sociale, de sorte que quand ils répriment, on envoie des gens voir son épouse, on envoie il y a des recommandations qui viennent d'en haut, il y a des menaces. La population trouve que c'est normal qu'on ne puisse pas réprimer.
C'est vrai que les mentalités doivent changer.
Effectivement. Notre fondation,
ouais.
Et ça s'implique dans le jeu. Vous avez vu que dans la salle, il n'y avait pas que des penseurs, des professeurs qui sont en train de parler. Il y avait des gens au pouvoir, il y avait les ministres, il y avait des sénateurs, il y avait des députés, mais il y avait aussi des ONG. Nous voulons qu'à un certain moment, on commence maintenant à dire non, déclarons la corruption comme un mal multidimensionnel, comme le professeur venait de dire, qui nécessite une approche multidimensionnelle et qu'à tous les niveaux, qu'on puisse essayer de mettre fin à cette corruption. Le policier sur la route, le magistrat dans son bureau, le cousin de l'agent de l'OFIDA ou des contributions, le ministre, le PDG, mais on ne doit pas attendre que seulement le chef de l'État, parce qu'il ne saura pas. Si la pression vient d'en bas, le chef de l'État ne pourra que suivre. D'ailleurs, le chef de l'État avait déclaré que les prisons sont ouvertes, mais on ne voit personne entrer. C'est parce qu'il n'y a pas de pression pour pousser les gens à entrer dans la prison.
Donc il faut qu'il y ait plus de pression pour que ces prisons ouvertes accueillent du monde.
Mais absolument.
Illustration de la corruption à ADC, c'est la dénonciation par le ministre après le premier ministre du détournement de plus d'un milliard de dollars des caisses de l'État. Le président de la Ligue contre la corruption et la fraude, Rachidi Akida, pense qu'il ne faut pas s'arrêter au niveau de la dénonciation, mais il faudrait que tous les auteurs soient réellement punis conformément aux lois du pays, mais aussi qu'ils restituent les biens volés. Il est joint par Blaise Chindani Kambala.
Que le gouvernement puisse continuer d'abord à mener des investigations jusqu'à arriver à déterminer les coupables, les châtier, les transférer devant les juridictions compétentes et aussi que ces derniers puissent restituer, n'est-ce pas, le montant perdu. Mais ce qui est malheureux pour nous, c'est qu'on puisse dénoncer, n'est-ce pas, ce détournement et au bout de compte, on n'arrive pas à mettre la main sur les coupables et surtout à les transférer devant la justice. Si vous vous rappelez, lorsqu'on avait dénoncé certains ministres dans le gouvernement passé, on les avait même révoqués, mais ces ministres n'ont jamais été inquiétés et en plus, ils n'ont jamais été déférés en justice et ils n'ont jamais restitué le montant dont ils étaient reprochés.
Professeur Daniel Moukoko, vous êtes économiste au CNUD et participant à la conférence internationale qui vient de s'achever sur les institutions financières internationales et les pratiques de corruption en RDC. Vous avez parlé tout à l'heure de l'inertie, manque de volonté pour combattre la corruption de la part des autorités du pays. Mais est-ce que le geste posé par le ministre, près le premier ministre hier, est-ce que ce n'est pas là quand même un geste, hein, un geste de cette volonté justement de combattre ce fléau?
Bien, vous avez bien utilisé le mot geste. Comme disait notre ami de la Ligue Coco tout à l'heure, j'espère moi aussi que ça ne va pas s'arrêter par un effet d'annonce, parce que des dénonciations de ce genre ont déjà eu lieu, mais mener une investigation, c'est une très bonne chose. Lorsque les présomptions sont suffisantes, la démarche à suivre, ce n'est pas de démettre les gens, ce n'est pas, mais la démarche à suivre, c'est de saisir la justice. Et d'ailleurs, je pense que dans ce genre de situation, le relais avec le système judiciaire devrait être automatique, parce que notre ami de Kisangani a dit tout à l'heure que il baissait les bras et il disait oh, vous savez, la situation est si grave qu'on n'y arrivera pas. La corruption n'est pas un phénomène spécifique à la République démocratique du Congo, c'est un phénomène qui se vit dans tous les pays, même dans les pays où le système judiciaire est plutôt efficace. L'important, c'est de rendre la corruption un phénomène répréhensible, un phénomène réprimé. De rendre les pratiques de corruption des pratiques qui aient un degré de risque extrêmement élevé. Mais l'être humain, il est ce qu'il est. Mais si dans le système national, les gens savent que si je suis reconnu, si je suis attrapé, reconnu coupable, que je vais payer cher, ça peut pousser certaines personnes à ne pas vouloir prendre le risque. Le drame chez nous, c'est que le risque de s'engager dans des pratiques de corruption est très faible par rapport aux gains que l'on peut retirer de ces pratiques de corruption. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même au sein de sa famille, les personnes qui sont à certains postes subissent la pression des membres de la famille, qui disent « Mais pourquoi tu prends pas? Pourquoi tu fais pas comme les autres? Pourquoi tu passes à côté de la chance de ta vie ?» N'est-ce pas ? Donc, j'espère que le système national ou les différentes structures vont embrayer et vont prendre le relais du travail qui a été fait par cette commission fonctionnant au sein de la primature, et que l'on verra bien les résultats de ces investigations, c'est-à-dire devant les cours et tribunaux,
oui,
des sanctions, de manière à ce que d'autres personnes comprennent que les pratiques de corruption comportent un effet de risque trop élevé.
Merci. Il y a eu beaucoup d'intervenants dans votre conférence, mais puisque là, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je prends juste ce qu'a dit un de vos collègues. Il s'agit de Bakker Raymond. Lui, il dit ceci, je cite, « Le volume de flux financiers illicites qui partent des pays en voie de développement vers les pays riches est estimé entre 500 et 800 milliards de dollars américains, alors que l'aide aux pays en développement varie entre 50 et 80 milliards de dollars américains, soit 10 fois le 1 dixième, si je peux dire, de l'argent qui va des pays en développement, en voie de développement vers les pays riches, par rapport à ceux qui partent des pays riches vers les pays pauvres. Finalement, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de la conférence internationale que vous avez organisée, professeur? On commence par vous, professeur Kabuya Kalala, en une minute rapidement. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement comme stratégie pour combattre la corruption à RDC? En une minute.
Il faut d'abord que les gens comprennent que la corruption, c'était mal. La corruption pénalise l'économie. La corruption encourage, si vous voulez bien, des inégalités sociales. Dès l'instant où les gens ont compris que c'était mal, c'est déjà beaucoup. C'est une première stratégie. Faire prendre conscience aux gens que la corruption, c'est quelque chose de mauvais.
Voilà. Professeur Daniel Moukoko, je veux que vous y reveniez rapidement pour compléter ce que vient de dire professeur Kabuya, rapidement, sur ce que les gens doivent retenir, les Congolais qui nous suivent en ce moment.
Mais je pense que je ne ferai que compléter le professeur Kabuya, parce que et je crois que c'est ça d'ailleurs l'utilité d'une telle rencontre, de la conférence à laquelle nous venons de participer, c'est de faire prendre conscience à de plus en plus de Congolais qu'au-delà des déclarations politiques ou bien au-delà des déclarations d'intention, de faire prendre conscience que la corruption est un fléau. Et comme tout mal, il faut le combattre, parce que c'est à nous qu'elle fait mal, la corruption. C'est nos conditions de vie qu'elle ne permet pas d'améliorer, la corruption. Donc nous devons tous participer à la combattre. Cette prise de conscience est le point de départ d'une véritable stratégie de lutte contre la corruption.
Voilà. On va terminer rapidement par vous dans au moins un tour de table pour se fixer sur cette conférence. Là, c'est pour répondre directement à Hubert Soka. Vous allez répondre à Lokoko de Butembo dans le Nord Kivu. Lui pense finalement que la conférence n'apportera rien de plus comme stratégie, parce que pour lui, c'est un secret de polichinelle sous l'état de la corruption à RDC. Tout est connu, les mêmes gouvernants savent où appuyer pour l'éradiquer. Hubert Soka.
Oui, je vais rapidement. Tous ce qu'ils sont en train de dire, ce sont des plaintes qui font l'état des lieux de la corruption. Maintenant, de tout ce qu'ils savent, que les gouvernants sont corrompus, que la population est corrompue, nous devons ensemble réfléchir à ce que nous pouvons faire individuellement. Ce que nous proposons dans cette conférence internationale, c'est que nous puissions exiger l'honnêteté des dirigeants. il n'appartient pas à eux seuls de rester honnêtes, mais il appartient à la population de les exiger d'être honnêtes. Si nous avons des aspects pessimistes comme cela, ceux qui sont corrompus aujourd'hui en profiteront et s'enrichiront davantage.
Merci beaucoup, Hubertus Sakan. Nous prenons les réactions des autres avec Titien Toto. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude. Paul, à partir de Goma, dans le Nord Kivu, nous fait savoir que les réactions de nos politiciens sont et resteront les mêmes. Rien ne sera fait en termes de changement, car chacun d'eux travaille pour son intérêt personnel. Le Bukavu au sud Kivu, Robert Bahomé, trouve que, pour éradiquer définitivement la corruption en RDC, l'idéal serait de changer seulement la mentalité du Congolais. Selon lui, les autres stratégies de lutte contre ce fléau ne sont que des palliatifs. Nico Mabanga, Nico Kabanga de Lubumbashi, dans le Katanga, pense pour sa part que le choix des mandataires des entreprises publiques ne se fait que sur base des affinités tribales, politiques, et l'intégrité morale est loin de figurer parmi les critères de choix. Enfin, Jean-Claude Salomon, à Kisangani, dans la province orientale, de son côté, estime qu'une commission de lutte contre l'impunité, c'est bien, mais avec quelle crédibilité, c'est démontré.
Merci beaucoup, Christine Poutou. On revient vers vous avec cette autre réaction qui vient d'arriver de Joseph Mabanga de Kinshasa. Lui pense que la corruption est institutionnalisée par l'appareil politique de l'État. L'appareil judiciaire doit prendre les choses en main pour interpeller et interroger toute personne mal intentionnée. Avec vous, Hubert Tshisoka, rapidement, hein, parce que là, il ne reste plus que 2 minutes pour terminer.
Oui, je vais me répéter et appuyer ce qu'ont déjà dit le professeur. Nous devons nous engager individuellement et collectivement contre le fléau. Ce qu'ils font là-bas, c'est l'état des lieux. La situation est grave. Alors, on doit être optimiste et chacun à son niveau contribuer à ce changement. Nous devons exiger des dirigeants. Il ne faut pas attendre d'eux. Il faut les contraindre à l'honnêteté.
Voilà, il faut contraindre donc les dirigeants à l'honnêteté et la population elle-même doit aussi changer de mentalité. Professeur Daniel Moukoko, avec vous, la question de Salomon depuis Kisangani, lui se demande une commission de lutte contre l'impunité, c'est bien, mais avec quelle crédibilité, professeur?
Mais la crédibilité, elle dépend justement de la pression sociale. Il y a quelques années, la population congolaise a voulu des élections. La population congolaise a fait pression pour que l'on mette un terme à la transition politique. Cette pression a été un facteur déterminant dans la conclusion de la transition politique. Je pense que c'est ce genre de mouvement justement qu'il faut, une vraie pression sociale pour que les institutions qui sont créées, que ce soit une commission de lutte contre l'impunité, une commission de lutte contre la corruption, que ces structures fonctionnent conformément aux désidérata de la population congolaise.
Professeur Kabuya, Nico Kabanga semble vous répondre. Il nous écrit depuis Lubumbashi, lui, parlant du choix des mandataires dans les entreprises publiques, il dit que ça se fait sur base des affinités tribales, politiques, et l'intégrité morale est loin de figurer parmi les critères de choix. Professeur.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un aspect important qu'on devrait désormais prendre en compte, parce que si, effectivement, du côté moral, on ferme les yeux, ben, les choses vont continuer comme elles se font aujourd'hui.
Oui. Mais il y a Robert Bahomé, lui, qui revient sur le changement de mentalité, on en a parlé ici, il dit que les autres stratégies de lutte contre ce fléau ne sont que des palliatifs. Donc pour lui, il insiste sur le changement de mentalité. Mais les Congolais vont changer la mentalité, comment là, concrètement?
Ben, il y a par exemple le fait de faire la distinction entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Les grands problèmes chez nous, c'est que l'intérêt public a complètement disparu. Dès l'instant où on n'a pas cette distinction-là, eh bien, la corruption s'installe facilement.
Il y a cette dernière réaction, et Hubert Tshisoka va y répondre rapidement. C'est un auditeur, Paul, qui nous écrit de Goma, et il paraît pessimiste parce que lui dit « Rien ne sera fait en termes de changement, car chacun travaille pour son intérêt personnel, et vous allez sûrement le contredire. »
Oui, je vais le contredire.
Rapidement.
Vous avez donné l'exemple du ministre qui a présenté la situation de un milliard.
Plus d'un milliard.
Oui, 300 millions qui ont été détournés. Et maintenant, je pense qu'il nous appartient. Il appartient à la société civile, aux médias, d'aller maintenant au parquet général exiger qu'il y ait des poursuites. Il ne faut pas laisser faire.
Merci beaucoup. Il ne faut pas laisser faire. C'est avec vous, Hubert Chissoka, que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Paulin Munke a été à la mise en onde, réalisation de Claude Kanza, avec le concours de Guy-Roger Nyampala, Titine Poutou, Denis Diboko et Anselme Sissi Mombéré. En leur nom, Jean-Claude Toumba Kamanga, je vous dis merci de nous avoir suivis. Thank you.